Argo est son maître. Le docteur m'avait exilé là-bas. Je devais rester pendant toute une année en haute montagne, me déplaçant lorsque le temps le permettait, me reposant lorsqu'il l'imposait. Idée géniale, mais qui ne me fut d'aucune aide. Le mouvement que l'été m'avait abondamment permis ne me fit pas de bien. Et le repos imposé par les premières bourrasques, qui me parut au début agréable, fut rapidement excessif, ennuyeux, épuisant. Puis, l'ennui me poussa à avoir une aventure avec une femme de ce rude pays. Elle finit mal, comme on le verra. Et à l'ennui s'ajouta une rancœur envers ce pays qui aurait dû me servir de médecine. La vieille Anna, mon unique compagnie dans la petite maison abritée par un rocher, elle, oui, elle suivait complètement le traitement. Parfois, elle en oubliait de faire mon lit. Je la regardais avec envie et n'arrivais pas à me mettre en colère. Quand je feignais de perdre patience, elle s'indignait. « Je n'ai que deux bras !» criait-elle. Et ses deux bras, petits et grassouillés, se mettaient seulement alors en activité pour se lever vers le ciel en signe de protestation. Je m'en allais réjouie de voir que, au moins pour elle, le repos n'était pas une chose si mauvaise. Dans ma chambre à coucher, je lisais le journal à fond, de la première à la dernière page, sans oublier les petites annonces. J'interrompais souvent cette lecture ennuyeuse pour remettre du combustible dans le poêle de fer que je tenais toujours rougeoyant. Je me disais « Maintenant ça suffit », sentant qu'il faisait assez chaud. Et cependant, peu après, ayant besoin de bouger, je m'occupais encore du charbon, ce qui me permettait ensuite une nouvelle activité grâce au ciel. Celle d'ouvrir la fenêtre et puis de la refermer rapidement lorsque l'air étouffant de la chambre était sorti réchauffer la montagne et avait été remplacé d'un coup par tant de froide humidité que je devais m'agiter encore plus autour du poêle. Vraiment géniale l'idée du docteur. Mon chien de chasse Argo me regardait avec curiosité et un peu d'anxiété, craignant que mon agitation ne prenne une autre direction. Lui aussi savait se reposer. Il était blotti sur le tapis moelleux, sur lequel reposait aussi son menton plat, et l'unique endroit animé de son corps était son œil. C'est certainement ainsi que regardent les sols quand elles reposent au fond de la mer. Et si j'ouvrais la fenêtre, il s'approchait du poêle et après avoir tourné un peu autour de lui-même, il mettait son long corps dans la même position et dès que la chambre devenait trop chaude, il émigrait dans un coin éloigné du poêle. Quand il avait réussi à retrouver une bonne position, il poussait un profond soupir. Il ne me dérangeait que lorsqu'il dormait car il ronflait, bien qu'il fût encore jeune, comme une vieille machine déglinguée. Il avait des réveils brusques à cause des quelques coups de pied que je lui donnais. Mais 10 minutes après, ça reprenait du début et je me résignais. Dans l'ensemble, ce bruit si uniforme n'était pas vraiment désagréable. Et si je devenais méchant, c'était par pure jalousie. Argo n'était pas un personnage très important, y compris parmi les chiens. Les chasseurs disaient que ce n'était pas un chien de race très pur, parce que son corps était un peu trop allongé. Tous reconnaissaient la beauté de son œil vif, bien que trop grand pour un chien de chasse, de son museau au dessin parfait et de son ample cou. À la chasse, il était impulsif. Certains jours, il était agressif comme ces ivrognes qui vous agressent emportés par leur poids. Les bastonnades étaient parfois nécessaires, mais souvent, elles augmentaient sa bestialité, et alors on aurait dit un éléphant dans un magasin de porcelaine. Peut-être pour cela, son caractère allégea un peu la douleur de ma solitude sans espoir. Balourd et envahissant, quand il ne me mettait pas en colère, il me faisait rire. Un soir, je revenais pour la 4e fois au journal. Dehors, il y avait un vacarme qui clôturait une journée entière de mauvais temps. Un vent violent qui ne voulait pas se calmer, même un instant. Si ça continuait ainsi, le jour suivant, nous serions coupés du monde extérieur, et je n'aurais d'autre moyen de distraction que de faire l'amour avec la vieille Anna. Et je lisais, distrait par la haine que je sentais monter en moi envers le docteur qui m'avait envoyé sur ces hauteurs. Quel beau résultat de l'enseignement universitaire! Il n'aurait pas pu se consacrer à un autre métier, moins nuisible? Enfin, je découvris dans le journal une nouvelle qui retint toute mon attention. Il y avait en Allemagne un chien qui savait parler. Parler comme un homme et avec en plus un peu d'intelligence, ce qui faisait qu'on allait jusqu'à lui demander des conseils. Il disait des mots difficiles en allemand que je n'aurais pas su prononcer. On pouvait rire de cette nouvelle, mais on ne pouvait pas la survoler. De toute façon, ce n'était pas une chose que la vallée racontait à la montagne, comme toutes les nouvelles politiques et sociales, juste pour bavarder, vu que la montagne n'y avait aucune part. C'était une nouvelle qui me concernait autant que les personnes qui vivent en bas. Je ne sais pas si, déconcerté, j'ai bougé, mais, à ma surprise, Argo leva la tête de son tapis et me regarda. Avait-il entendu lui aussi la nouvelle qui le concernait ? Je le regardais moi aussi, et dans mon œil, il devait y avoir une expression tellement neuve pour lui que, inquiet, il se dressa sur ses jambes de devant pour mieux m'étudier. Il détourna rapidement la face de mes yeux inquisiteurs avec cette lâcheté qu'il y a dans le regard du chien, l'unique signe que sa sincérité est moins entière que ce que l'on suppose. Il revint vers moi et, clignant tantôt d'un œil, tantôt de l'autre, mouvement d'autant plus comique que l'on peut supposer que le stupide animal alterne ce mouvement pour éviter de rester aveugle un seul instant, il tenta de soutenir mon regard. Puis, hypocritement, il regarda fixement vers un coin de la pièce où il n'y avait rien à voir. Finalement, il trouva une ligne médiane entre le coin et moi, et il pouvait ainsi me surveiller sans m'affronter. La nouvelle du journal m'avait libéré de tout ennui. Soulignée et confirmée par la pantomime d'Argo, je ne pouvais plus en douter. La nouvelle était vraie. Argo savait parler et se taisait seulement par obstination. J'abandonnais le journal qui ne contenait rien d'autre qui aurait pu m'intéresser et je me jetais directement dans l'éducation d'Argo. J'eus tout de suite l'impression de me taper la tête contre les murs. Le stupide animal, se voyant agressé de gestes et de bruits, rassembla tout son savoir et me tendit la patte une fois, deux fois, 20 fois. Il avait deviné qu'on lui demandait de montrer ce qu'il savait faire et il me tendait la patte. Il la donnait toujours avec le même mouvement ample. Il devait, pour devenir humain, oublier le geste du chien domestiqué auquel il s'était arrêté comme à l'extrême limite de son éducation. Déjà, le premier soir, je perdis patience. Argo alla à la niche, la queue entre les jambes, mais cependant, je peux dire que son état était moins lamentable que le mien. Dans mon lit, je me remis à injurier le docteur à distance. Je devais laisser tranquille ce pauvre chien qui n'était pas responsable de mon exil. Mais il n'était pas facile d'accepter une inertie comme celle à laquelle j'étais condamnée, avec à mes côtés Argo, promesse d'une activité vraiment sans limite. Avant, pour me secouer, je courais jusqu'au poêle et je jouais avec le feu. Maintenant, en dépit de toute résolution, je tombais sans arrêt accroupi à côté d'Argo. C'est la seule position dans laquelle on peut parler avec un chien. L'innocent, tout d'abord, comme par une étrange pudeur, regardait ailleurs quand il voyait un homme dans la position d'un chien. Puis il s'y habitua. Et chaque jour, il y eut quantité de leçons. Il pleuvait des coups et des morceaux de sucre. Quand il le pouvait, Argo cherchait à se soustraire à cette torture. Mais sauf quand je dormais, je ne pouvais pas rester sans lui. Parfois, le découragement interrompait les leçons. La même colère me faisait ensuite les reprendre. Je devais bien me venger de tant d'imbécilité. Dans le même temps, je mettais la même ténacité désespérée à m'éduquer moi-même à la tâche inverse. J'ai pillé la bête pour découvrir si je devais la prendre par le museau ou par la queue. Je recueillais tous les sons qu'il émettait, et ce son m'accompagnait jour et nuit. Le combat fut long, autant avec la bête qu'avec moi-même, mais le résultat fut un triomphe. Ou plutôt, je dois dire que ce fut un fiasco, si je n'oublie pas que ma première intention avait été d'enseigner l'italien à Argo. Argo ne sut jamais dire une seule parole en italien. Mais qu'importe, il s'agissait de s'en comprendre. Et pour cela, il n'y avait que deux voies possibles. Argo devait apprendre ma langue, ou bien moi la sienne. Comme il était prévisible, des leçons que nous nous donnions réciproquement, celui qui apprit le plus fut l'être le plus évolué. On était encore en plein hiver, et je comprenais la langue d'Argo. Ce n'est pas mon intention de l'enseigner au lecteur, il me manque aussi des caractères pour la noter. Et puis, la langue pauvre du chien n'est pas importante, mais plutôt son vrai caractère que je fus le premier dans le monde à entrevoir. En en parlant, j'en suis aussi fière que pouvaient l'être ceux qui ont les premiers découvert d'autres coins de nature. Volta, Darwin et Colomb. Argo me fit ses communications, dociles et résignées. Je les recueillis et les laissai dans leur forme originale de soliloque. Parce que tel est Master, vu que je ne fis pas de progrès suffisant dans cette langue pour pouvoir discuter avec lui. J'admets avoir peut-être, ici et là, mal compris l'argot, mais pas trop. Je peux m'être trompée sur certains mots, mais j'ai certainement deviné exactement leur sens général. Malheureusement, je ne peux pas citer le témoignage d'Argot lui-même, puisque la pauvre bête ne vit pas l'été. Elle mourut de neurasthénie aiguë, mais tous ceux qui l'ont connue le retrouvent dans ses mémoires. Les détails n'ont pas d'importance, et s'ils en ont, je ne sais qu'en faire. Je donne ce que j'ai. La langue du chien est moins complète que la plus pauvre des langues humaines. Quand je le poussais à philosopher, Argot est sans aucun doute le premier philosophe de son espèce, j'obtins de lui cette phrase futuriste « Trois odeurs égale la vie ». Pendant des jours, j'insistais pour en avoir le commentaire, et je n'en eus jamais que la répétition. La bête est parfaite et pas perfectible. Celui qui l'étudie doit savoir progresser. Je notai la phrase comme elle était, et je poursuivis. Ensuite, ayant eu d'autres de ses communications, j'en déduisis quelques savoirs et crus avoir compris. Il divise la nature en trois classes seulement, parce que pour lui, le maximum mathématique est de trois. Puis il en cite cinq, et de ces exemples, il en résulterait beaucoup plus. Je crois que ceci est la vraie, la grande sincérité philosophique. On doit noter le fait curieux que toutes les communications d'Argot se réfèrent à notre séjour à la montagne. La vallée, où il avait séjourné jusqu'à peu de mois avant, semble complètement oubliée, vu qu'il ne mentionne jamais personne en dehors de moi, de la vieille Anna et de quelques hommes et chiens qu'il connut ici, en haut. Et pourtant, quand il retournait dans la vallée, il démontrait qu'il reconnaissait ses vieux amis. Il n'oublie pas et ne se souvient pas non plus. Il conserve. Voici les communications d'Argot. J'y ai ajouté quelques observations entre parenthèses, lesquelles n'étaient peut-être pas nécessaires.